Chapitre 7. Nous avons vu Brutus à Athènes et nous avons assisté à l'accueil triomphal qui lui avait été fait. Mais Brutus commençait, au milieu de tout cela, à comprendre que Cassius et lui avaient eu tort de quitter l'Italie. D'ailleurs, une chose l'attristait sur son chemin. Il suivait les traces de Cassius et, sur ces traces, il trouvait l'Orient presque aussi ruiné par son collègue que l'Italie l'était par les triumvirs. Le même besoin d'argent motivait les mêmes actes, plus terribles peut-être, parce qu'ils n'avaient point leur source dans un sentiment qui, chez les anciens, passait pour sacré la vengeance. Cassius avait exigé un tribut de 10 années par toute l'Asie. Les magistrats de Tars, frappés d'une contribution de 1500 talents, avaient été forcés d'abord de vendre les propriétés publiques et ensuite de dépouiller les temples. Enfin, ces deux extrémités, laissant encore les exigences de Cassius en arrière, ils avaient fait vendre comme esclaves des citoyens libres, des enfants, des femmes, des vieillards, des jeunes gens même, dont plus de la moitié se tua, préférant la mort à l'esclavage. Rhodes, où Cassius avait été élevé, lui résista. Cassius en fit le siège et la prit. 50 citoyens furent égorgés au milieu du sac de la ville. Ce spectacle commença par briser l'âme douce et tendre de Brutus. Mais il s'aperçut bientôt d'une chose terrible, c'est qu'il faut subir le destin que l'on s'est fait. Ce n'était plus pour sa vie, pour une idée, pour un principe, pour un rêve que combattait Brutus, c'était pour la liberté de l'Italie. On était entré dans une voie terrible par un meurtre, il fallait continuer la route funeste, l'épée et le flambeau à la main, il fallait éteindre l'incendie avec le sang. Ainsi, il avait, lors du meurtre de César, obtenu des conjurés que l'on épargna Antoine. Il avait, rappelez-vous sa lettre à Cicéron, épargné le frère du triumvir qui était tombé entre ses mains, et voilà qu'il apprenait les massacres de Rome et la mort de Cicéron. La première chose qui le frappa dans cet événement, lui stoïque, pour lequel la mort n'était point un malheur, ce ne fut point précisément l'odieux de cette mort, mais l'avilissement du pays, mais l'abaissement des hommes qui avaient laissé commettre un pareil assassinat. Aussi, en apprenant cette mort, dit-il publiquement, « J'ai plus de honte de ce qui la cause que je n'ai de douleur de cette mort même. Tout le tort en est à mes amis de Rome. Ils doivent s'imputer à eux-mêmes, plus qu'à leurs tyrans, l'esclavage dans lequel ils sont tombés, puisqu'ils ont la lâcheté de voir et de souffrir des indignités dont le seul récit est intolérable. » Mais alors, par représailles, il ordonna que l'on mît à mort Caius Antonius. Hortensius, qu'il avait reçu en garde, reçut cet ordre et le mit à exécution. Lui-même devait être victime d'une représaille semblable. Pris à la bataille de Philippe, Antoine à son tour égorgea Hortensius sur la tombe de son frère. Cet Hortensius, lieutenant de Brutus, était le fils du fameux orateur et le père de cette noble Hortensia dont la mémoire est arrivée jusqu'à nous et dont le nom est le symbole du courage et de l'éloquence. Eh bien, de même que Brutus avait eu, par les événements, la main forcée à l'endroit de la clémence, il lutte à l'endroit des exactions et du pillage. La grande question à cette époque était de faire vivre les soldats. Ceux qui avaient faim devaient indubitablement aller demander à manger au général ennemi. Brutus fit ce qu'avait fait Cassius. Ce n'était point le corps de Brutus qui souffrait, c'était son âme au milieu de ses triomphes. Il avait vaincu les Xantiens, les Lyciens, les Pontariens, les Mysiens, il avait hâte d'en finir. Le général ordonnait, l'homme gémissait. Aussi écrivit-il à Cassius, « Quitte l'Égypte au plus vite et viens me rejoindre en Syrie. Ce n'est pas pour posséder nous-mêmes le pouvoir, mais pour délivrer notre pays de la servitude et pour détruire les tyrans que nous avons rassemblés des armées. À quoi bon, alors, errer de côté et d'autre? Il faut nous remettre sans cesse à l'esprit le but que nous nous sommes proposés et ne nous en écarter jamais. C'est pourquoi ne nous éloignons pas de l'Italie, rapprochons-nous-en au contraire le plus tôt que nous pourrons afin de secourir nos concitoyens. » Cassius comprit la nécessité du plan proposé par Brutus, il se mit en marche à l'instant même. Les deux amis, disons mieux les deux complices, complices de ce crime immense de vouloir rendre à Rome une liberté dont Rome ne voulait plus, les deux complices se rejoignirent à Smyrne. C'était la première fois qu'ils se revoyaient, depuis qu'ils s'étaient séparés au Pirée, pour aller l'un en Macédoine, l'autre en Syrie. Chacun amenait pour sa part une magnifique armée. Ils étaient partis de l'Italie comme de misérables bannis, sans argent, sans armes, n'ayant pas un seul vaisseau équipé, n'ayant pas un soldat à leur suite, pas une seule ville dans leurs intérêts, obligés de se séparer pour faire un double appel de force. Et voilà qu'après 5 ou 6 mois, ils se trouvaient réunis, disposant d'une flotte puissante, d'une cavalerie bien équipée, d'une infanterie nombreuse et, mieux que tout cela, de l'argent nécessaire à l'entretien de leurs troupes. En somme, en état de disputer à leurs ennemis l'empire du monde. Empruntons à Plutarque les quelques lignes qu'il écrit à propos du rapprochement des deux amis. Nous y trouverons l'appréciation de leurs deux caractères, appréciation précieuse sortant de la plume d'un grec vivant sous les empereurs et écrivant les actions de Brutus et de Cassius, 120 ans environ après leur mort, et quand il ne restait plus à Rome que quelques rares et tenaces partisans de la République. Cassius, disait-il, désirait rendre à Brutus autant d'honneur qu'il en recevait de lui. Mais Brutus le prévenait presque toujours et allait le plus souvent le premier chez Cassius, ayant égard à son âge et à la faiblesse de son tempérament, qui ne lui permettait point de soutenir la fatigue. Cassius passait pour un habile homme de guerre, mais il était violent et ne savait gouverner que par la crainte. Au milieu de ses amis, il aimait à railler et il se livrait à la plaisanterie avec excès. Quant à Brutus, il était aimé du peuple pour sa vertu, chéri de ses amis, admiré des gens de bien et n'était haï de personne, pas même de ses ennemis. Il devait ses sentiments à son extrême douceur, à l'élévation peu commune de son esprit, à sa fermeté d'âme qui le rendait supérieur à la colère, à l'avarice et à la volupté. Sa pensée était droite, il ne fléchissait jamais dans son attachement à tout ce qui lui paraissait juste et honnête, et s'il se concilia la bienveillance et l'estime publique, ce fut surtout par la confiance que l'on avait dans la pureté de ses intentions. Personne n'eût osé affirmer que Pompée, le grand Pompée lui-même, s'il eût vaincu César, eût voulu soumettre sa puissance aux lois. On était persuadé au contraire qu'il retiendrait entre ses mains l'autorité souveraine sous le titre de consul ou de dictateur, ou de quelque autre magistrature plus douce. Quant à Cassius, homme emporté et colère, et que l'intérêt entraînait souvent hors des voies de la justice, on croyait que, s'il faisait la guerre, et s'il s'exposait ainsi à tant et à de si grands dangers, c'était bien moins pour rendre la liberté à ses concitoyens que pour s'assurer à lui-même une haute puissance. Que si nous remontons à des temps antérieurs, les Cinna, les Marius, les Carbons, qui regardaient la patrie comme le prix, ou plutôt comme la proie du vainqueur, n'avouait-il pas franchement n'avoir combattu que pour la réduire en servitude? Mais Brutus ne s'entendit jamais reprocher des vues tyranniques par ses ennemis. Au contraire, Antoine lui-même dit un jour, et cela devant témoin, que Brutus était le seul des conjurés qui n'eût été conduit, en conspirant contre César, que par la grandeur et la beauté de l'entreprise, tandis que tous les autres y avaient été poussés par la haine et par l'envie qu'ils portaient à ce grand homme. Aussi, les lettres de Brutus prouvent-elles, et cela d'une façon évidente, qu'il mettait sa confiance bien moins dans ses troupes qu'en sa propre vertu. À la veille même du danger, il écrit à Atticus « Mes affaires sont au point de fortune le plus brillant, car ou ma victoire affranchira les Romains, ou la mort me délivrera moi-même. Tout le reste est pour nous dans un état ferme et assuré, hormis une seule chose qui est encore incertaine, à savoir si nous vivrons ou si nous mourrons libres. Marc-Antoine porte la juste peine de sa folie en ce que, pouvant se mettre au nombre des Brutus, des Cassius et des Catons, il aime mieux n'être que le second après Octave, de sorte que, s'il n'est pas vaincu dans la bataille qui va se donner, lui, à son tour, sera obligé de lui faire la guerre. » Et le temps prouva que ces paroles étaient une exacte prédiction de ce qui devait arriver par la suite. Nous avons déjà vu avec quelle lucidité, dans sa lettre à Cicéron, Brutus lui avait exposé l'ambition d'Octave et les dangers que lui, Cicéron, courait en la secondant. Ce fut à Smyrne qu'eut lieu la première altercation entre les deux amis. Elle vint à propos d'argent. Cassius avait, par ses exactions, réuni de grandes sommes. Brutus n'avait recueilli que très peu d'argent, car ce ne fut que plus tard qu'il s'empara des provinces et des villes dont, trop hâtivement, nous avons annoncé la conquête. « Tout l'argent que j'avais de mon côté, disait Brutus, a été employé à l'équipement de cette flotte nombreuse que je t'amène et qui met la Méditerranée en notre pouvoir. » Mais les amis de Cassius, au contraire, jaloux de Brutus, lui disaient « Il n'est pas juste que ce que tu as conservé de tes épargnes et ce que tu as arraché au peuple en t'exposant à leur haine, tu le donnes à Brutus, qui l'emploiera à s'attacher la multitude et à faire des largesses aux soldats. » Mais telle était l'influence de Brutus sur Cassius que celui-ci céda et donna à Brutus un tiers des sommes qu'il avait recueillies. Alors ils se séparèrent. Chacun avait son œuvre à faire. Un nouveau rendez-vous fut donné à Sardes. Ce fut alors que Cassius se rendit maître de Rhodes et en usa si durement avec les habitants. Et comme, à son entrée dans leur ville, les Rhodiens l'appelaient leur maître et leur roi, « Je ne suis ni un maître ni un roi, leur dit-il, mais j'ai au contraire tué celui qui voulait être notre maître et notre roi. » De son côté, Brutus allait essayer de lever les contributions, mais son cœur miséricordieux n'était pas celui d'un percepteur de taxes. Il eût, s'il eût suivi sa propre impulsion, plutôt donné aux malheureux qu'imposé les riches. Ses ennemis eux-mêmes savaient cela et agissaient en conséquence. Ainsi, il demanda aux Lyciens de l'argent pour ses troupes. Les Lyciens allaient le donner, mais le démagogue Nocratès persuada aux villes de la Lycie de se révolter en défendant les hauteurs et de fermer ainsi le passage aux Romains. Nous avons souligné le mot « démagogue » pour prouver que la cause de Brutus était bien celle de l'aristocratie. Brutus, voyant l'obstacle qui lui était opposé, envoya contre les Lyciens sa cavalerie qui les surprit pendant leur repas et en passa 600 au fil de l'épée. Puis, profitant de la terreur inspirée par sa victoire, il se rendit maître de plusieurs forts et de plusieurs villes. Alors son excellente nature reprit le dessus, et se donnant à lui-même un prétexte de clémence, il renvoya sans rançon ceux qu'il avait fait prisonniers. Il espérait que ce désintéressement lui attirerait l'affection des peuples, mais il n'en fut rien. La clémence était chose si insolite dans la société antique que ses ennemis mirent l'action de Brutus sur le compte de la crainte qui lui inspirait. Brutus résolut alors de frapper un grand coup et d'aller mettre le siège devant Xanthe où les plus braves et les plus considérables des Lyciens s'étaient renfermés. Une rivière en baignait les murailles. Cette rivière s'appelait le Xanthe, c'était elle qui avait donné son nom à la ville. Ceux des assiégés qui pensaient avoir le plus à craindre de la vengeance de Brutus, au cas où la ville serait prise, résolurent de profiter du voisinage de cette rivière et tentèrent de se sauver en nageant entre deux eaux. Quelques-uns réussirent, mais les assiégeants, s'étant aperçus de ce moyen d'évasion, tendirent des filets à travers la rivière et à ces filets attachèrent des sonnettes. Dès qu'un nageur allait donner de la tête contre les filets, les sonnettes tintaient et le nageur était pris. Une nuit, les Xanthiens firent une sortie dans le but d'incendier les machines du siège. Ils parvinrent en effet à attacher la flamme à quelques-uns. Mais juste en ce moment, un grand vent s'étant levé, le feu sembla poursuivre ceux qu'il avait apportés et s'allongea en langues ardentes jusqu'au créneau des murailles, menaçant les maisons voisines. Brutus, qui craignait de voir l'incendie s'étendre à la ville, ordonna aussitôt d'éteindre le feu. Mais pris d'un désespoir insensé, les Xanthiens, au lieu de l'aider dans l'œuvre de leur salut, comme si, au contraire, ils s'étaient condamnés eux-mêmes, apportèrent du bois, du goudron et tout ce qu'ils trouvèrent de matière combustible qu'ils jetèrent dans les deux ou trois foyers. La flamme monta alors, irrésistible, dévorante, effroyable. Du haut des murailles, on voyait les Xanthiens comme autant de démons rougis par les reflets de l'incendie, augmentant ce foyer, tirant sur les Romains, les vouant à la mort et s'y vouant avec eux. Bientôt l'incendie, comme attiré par les éléments qu'on lui jetait, rampa contre les murailles, couronna leur sommet, gagna des maisons éparses et, toujours poussé par le vent, toujours attisé par les assiégés, gagna la ville. Au milieu des flammes, on voyait les habitants courir, allumant des torches au volcan, les jetant sur les maisons non atteintes encore. On eût dit une fête consacrée au dieu du feu, une Saturnale à Pluton. En 2 heures, tout brûla. La surface de la ville ne fut plus qu'un lac de flammes. Brutus, désespéré de cet irréparable malheur, courait tout autour des remparts, criant aux Xantiens qui leur faisaient grâce, les suppliant seulement de s'épargner eux-mêmes. Mais eux, sourds à sa voix, à ses prières, à ses supplications, semblaient pris de la rage de la destruction. Et non seulement les hommes, mais les femmes, mais les petits-enfants se jetaient au milieu des flammes ou se précipitaient du haut des murailles en poussant des cris affreux. On vit des enfants venir tendre leurs gorges nues aux épées de leurs pères. On les entendit leur crier de frapper. La ville consumée, réduite en cendres fumantes, on vit une femme ayant son enfant mort à son cou mettre le feu à sa maison qui, écartée des autres, avait été épargnée et se pendre elle-même à quelques pas de là. Le cœur de Brutus se brisa à ce dernier spectacle. Il s'en éloigna, détournant les yeux et criant qu'il y avait une récompense de 800 sesterces pour tout soldat qui sauverait un Lycien, homme, femme ou enfant. 150 seulement consentirent à accepter la vie. Au reste, l'exemple avait été donné aux Lyciens par leurs ancêtres pendant les guerres médiques. Ils avaient brûlé eux-mêmes leur ville et s'étaient ensevelis sous leurs décombres. Xante détruite, Brutus alla mettre presque en tremblant le siège devant Patare, autre ville de la Lycie. Nous disons presque en tremblant, car il craignait que cette ville ne suivît l'exemple qui venait de lui être donné par la malheureuse Xante. Mais la fortune voulut qu'ayant fait quelques femmes prisonnières et les ayant renvoyées sans rançon, elles vantassent tellement à leurs pères et à leurs maris, qui étaient des plus considérables de la ville, la générosité et la clémence de Brutus, qu'elles amenèrent ceux-ci à remettre la ville entre ses mains. Dès lors, la marche de Brutus fut un triomphe. Toutes les villes se soumirent et se rendirent à discrétion. Et bien leur en prit, car, tandis que Cassius imposait les Rhodiens à 8 000 talents, c'est-à-dire à 44 millions de notre monnaie, Brutus ne leva sur les Lyciens qu'une contribution de 150 talents, c'est-à-dire de 800 000 francs à peu près. Puis, sans leur causer d'autres dommages, il partit pour l'Ionie. Ce fut là qu'il eut l'occasion d'accomplir une vengeance qui, chez les Romains, passa pour un acte de piété. Nous avons, dans notre étude sur César, raconté la bataille de Pharsale, Pompée fuyant, son arrivée en Égypte, sa mort. Cette mort avait été décidée par un mauvais rhéteur nommé Théodatus de Chios, lequel enseignait la rhétorique au jeune Ptolémée et, faute de meilleur ministre, était admis au conseil. Le conseil, rassemblé pour savoir comment on devait agir à l'endroit de Pompée, Théodatus de Chios opina pour l'assassinat, donnant cette bonne raison, « Un mort ne mord pas ». Le conseil se rendit à cet avis et Pompée fut tué. Lorsqu'à son tour, César arriva en Égypte et tout ennemi de Pompée qu'il était, punit ses assassins. Théodatus seul eut le bonheur de lui échapper. Mais il n'échappa point à Brutus. Amené devant lui, Brutus le condamna à mort. La sentence fut exécutée. L'époque prise pour le rendez-vous des deux généraux étant venue, ils se retrouvèrent à Sardes. Brutus étant arrivé le premier, il alla au-devant de Cassius avec ses amis, tandis que les troupes, pour lui faire honneur, se rangeant sur son passage, les saluaient l'un et l'autre du titre d'impérator. Brutus attendait Cassius avec impatience. Il voulait lui reprocher sa cruauté et ses exactions. Aussi, à peine Cassius fut-il arrivé à Sardes et eut-il pris possession de la maison qui lui était préparée, que Brutus le poussa dans une chambre, y entra à son tour, ferma la porte derrière lui et aborda la question des remontrances. Cassius n'était pas doué d'une grande patience, aussi la sienne fut-elle vite à bout. On entendit alors un grand bruit de voix et une longue suite de récriminations réciproques, Brutus reprochant à Cassius son avarice et sa cruauté, Cassius lui reprochant sa clémence et son désintéressement. Cependant, il était trop important au bien de la cause que les deux chefs qui représentaient le parti ne se brouillassent point pour que cette querelle eût une suite sérieuse. Stavonius, le même Stavonius que l'on appelait le singe de Caton, prit sur lui de forcer la consigne et d'entrer. Brutus et Cassius, qui n'avaient pour lui qu'une médiocre considération, le mirent à la porte. Mais la diversion était faite, et le même jour, ils dînèrent à la même table, paraissant aux yeux de tous parfaitement raccommodés. Le lendemain, Brutus jugea publiquement un Romain, Lucius Pella, accusé de concussion par les Sardiens. Brutus, incapable de transiger avec sa conscience, le nota d'infamie. Ce jugement blessa fort Cassius. Quelques jours auparavant, ayant, dans des circonstances pareilles, à juger deux de ses amis, non seulement accusés, mais convaincus du même crime, Cassius était contenté de leur faire quelques réprimandes en particulier, réprimandes qui ne l'empêchèrent point de leur conserver leurs emplois. Ce jugement de Brutus était donc la censure du jugement de Cassius. Aussi Cassius accusa-t-il avec aigreur son ami de montrer un trop scrupuleux respect pour les lois et la justice dans un temps où il fallait sacrifier quelque chose à la politique et à la faiblesse humaine. Alors, avec sa douceur ordinaire, Brutus lui répondit « Cassius, tu dois te souvenir des Ides de Mars, ce jour où nous avons tué César, non point que César eût dépouillé ni tourmenté lui-même personne, mais parce qu'il fermait les yeux sur ceux qui agissaient ainsi sous son nom. Si les quelques prétextes honnêtes de violer la justice, mieux eût valu encore souffrir les malversations des amis de César que d'être le complice de celles de nos propres amis. L'indifférence sur les premières n'eût passé que pour défaut de courage, tandis qu'en tolérant les autres, nous semblons partager les profits des crimes que nous ne punissons pas. » Ce qui rendait Cassius aigre envers Brutus, c'est que Brutus avait toujours raison. Ce fut dans ce moment, et comme Brutus se disposait à quitter l'Asie pour passer en Grèce, qu'arriva l'étrange événement qu'on va lire. La tradition l'a raconté, l'histoire l'a adopté, la poésie l'a consacré. Brutus était un veilleur obstiné. Une partie de ses nuits était consacrée à l'étude, au travail ou à la lecture. 2 ou 3 heures de sommeil lui suffisaient. Une nuit, qu'il avait veillé jusqu'à la 3e garde, c'est-à-dire jusqu'à minuit, et qu'après avoir donné le mot d'ordre au centurion, il était resté seul et éclairé seulement par la faible lueur d'une lampe, tout étant profondément obscur autour de lui, il lui sembla entendre un faible bruit vers l'entrée de sa tente. Alors il tourna la tête et vit entrer un spectre à la figure menaçante qui s'approcha de lui et se tint debout à ses côtés. Brutus attendit un instant que la vision terrible lui adressât la parole. Mais voyant que le fantôme s'obstinait à se taire, il l'interrogea le premier. « Qui es-tu ? » lui demanda-t-il. « Réponds, homme ou Dieu, que viens-tu faire ici et que me veux-tu ? » « Brutus, je suis ton mauvais génie, » répondit le fantôme, « et tu me verras à Philippe. » « Soit, je t'y verrai. » Le fantôme disparut. Brutus appela ses serviteurs et leur demanda s'ils avaient vu quelque chose. Tous répondirent qu'ils n'avaient rien vu. « C'est bien, dit-il, allez !» Et quand ils furent sortis, il se remit à sa lecture.